qui a circulé en France depuis le début du Moyen-Âge, presque jusqu'à la Renaissance encore, c'est-à-dire l'histoire de ces Français qui défendaient des Francs qui étaient eux-mêmes des Troyens qui, sous la conduite du roi Francus, fils de Priam, avait quitté Troie au moment de l'incendie de la ville, s'était d'abord réfugié sur les rives du Danube, puis en Germanie, sur les rives du Rhin, et finalement avait trouvé, ou plutôt fondé en France leur patrie. Bon. Ce récit, je ne veux pas essayer de savoir ce que, au Moyen-Âge, vous pouvez signifier, le rôle que pouvait avoir cette légende à la fois du périple et de la fondation de la patrie. Simplement m'interroger sur ce point, il est tout de même étonnant que ce récit ait pu être repris et pu continuer à circuler à une époque comme la Renaissance. Non pas du tout à cause du caractère fantastique des dynasties ou des faits historiques auxquels il se référait, mais plutôt par ce fait, c'est que dans cette légende, au fond, il y a une illusion complète de Rome, illusion complète de la Gaule d'abord ennemie de Rome, de la Gaule envahissant l'Italie et assiégeant Rome, illusion aussi de la Gaule en tant que colonie romaine, illusion de César, illusion de la Rome impériale, et illusion par conséquent de toute une littérature romaine qui était pourtant parfaitement connue à l'époque. Je crois que si Rome est ainsi élidée de ce récit troyen, c'est que, enfin, on peut le comprendre si on renonce à prendre ce récit des origines comme une sorte de tentative d'histoire qui serait encore engagée dans de vieilles croyances. Il me semble que c'est un discours qui a une fonction précise. Cette fonction précise, ce n'est pas tellement de raconter le passé, ni même de dire les origines, c'est un discours qui a pour fonction de dire le droit du pouvoir, c'est-à-dire que c'est une leçon au fond de droit public. Et c'est en tant que leçon de droit public, je crois, que ce récit a circulé, et c'est parce que c'est une leçon de droit public qu'au fond, Rome en est absente. Rome en est absente, mais Rome y est également présente sous une certaine forme, en quelque sorte dédoublée, déplacée, jumelle. Rome est là, mais en miroir et en image. En effet, dire que les Francs sont aussi, comme les Romains, les fuyards de Troie, dire que la France est en quelque sorte par rapport au tronc troyen, l'autre rameau, dont en face d'une branche qui serait la branche romaine, bien dire cela, c'est dire au fond deux ou trois choses qui sont politiquement et juridiquement, je crois, importantes. Dire que les Francs sont aussi, comme les Romains, les fuyards de Troie, ça veut dire d'abord que, bien sûr, du jour où l'État romain, qui n'était après tout qu'un frère, plutôt plus un frère aîné, c'est-à-dire que du jour où cet État romain a disparu, eh bien ce sont les autres frères, les frères cadets, qui tout naturellement, en fonction même du droit des gens, en héritent. La France, par une sorte de droit naturel, et reconnue de tous, succède à l'Empire. La France succède à l'Empire, plus précisément, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que le roi de France hérite sur ses sujets des droits et des pouvoirs qui étaient ceux de l'empereur romain sur les siens. C'est-à-dire que la souveraineté du roi de France se trouve, elle, de même type que la souveraineté de l'empereur romain. Le droit du roi, c'est le droit romain. Et la légende de Troie est une manière de raconter de manière imagée, de mettre en image le principe qui avait été formulé au Moyen-Âge, en particulier par Montpellier, quand il disait que le roi de France est empereur en son royaume. Thèse importante, vous comprenez, qu'il s'agit en somme du de l'accompagnement historico-mythique du développement du pouvoir royal tout au long du Moyen Âge. Développement qui s'est fait sur le mode de l'impérium romain et en réactivant le droit impérial tel qu'il avait été codifié à l'époque de Justin. Mais c'est dire également autre chose que de dire que la France hérite de l'Empire. C'est dire que la France, sœur ou cousine de Rome, eh bien, a des droits égaux à Rome elle-même. C'est dire que la France ne relève pas d'une monarchie universelle qui voudrait, après l'Empire, ressusciter l'Empire romain. La France est tout aussi impériale que tous les autres descendants de l'Empire romain. La France est tout aussi impériale que l'Empire allemand. Elle n'est en rien subordonnée au César germanique. Aucun lien de vassalité ne peut légitimement la rattacher à la monarchie des Habsbourg et la subordonner par conséquent au grand rêve de monarchie universelle qui était porté à ce moment-là par elle. On voit donc pourquoi, dans ces conditions, il fallait que Rome soit élisée, enfin il fallait que soit élisée la Gaule romaine, celle des Césars et celle de la colonisation, pour que en aucune manière la Gaule et les successeurs des Gaulois puissent apparaître comme étant encore et toujours sous la subordination d'un empire, et il fallait également que les invasions franques qui rompaient à l'intérieur la continuité avec l'Empire romain soient également élisées. La continuité intérieure de l'impérium romain jusque dans la monarchie française excluait la rupture des invasions, mais la non-subordination de la France à l'Empire, aux héritiers de l'Empire et en particulier à la monarchie universelle des Habsbourg, cette non-subordination impliquer que la France ne soit pas, que n'apparaisse pas la subordination de la France à l'ancienne Rome, donc que la Gaule romaine disparaisse. Fallait autrement dit que la France soit une sorte d'autre Rome, autre voulant dire indépendante de Rome, mais Rome tout de même, c'est-à-dire que l'absolutisme du roi y valait comme à Rome même. Bon. Voilà, je crois, en gros, la fonction de leçon de droit public que l'on peut retrouver dans la réactivation ou la poursuite de cette mythologie troyenne jusque tard dans la Renaissance, à l'époque même, pourtant, les textes romains sur la Gaule et la Gaule romaine étaient bien proches. On dit parfois que ce sont les guerres de religion qui, d'une part, ont permis de bousculer cette vieille mythologie, et je crois une leçon de droit public, que ce sont les guerres de religion qui ont bousculé donc cette mythologie et qui ont introduit pour la première fois le thème de la, de ce que Augustin Thierry appellera plus tard la dualité nationale, ce thème, si vous voulez, de deux groupes hostiles qui constituent la substructure permanente de l'État. On dit que ce sont les guerres de religion qui ont introduit cette dualité nationale, mais je ne crois pas pourtant que ce soit absolument exact. Ce à quoi on se réfère pour dire que ce sont les guerres de religion qui ont fait penser la dualité nationale, c'est un texte de François Hotman qui s'appelle Franco-Gallia, qui date de 1573, dont le titre même semble bien indiquer que c'était une sorte de dualité qui pense. En effet, dans ce texte, François Hotman reprend une thèse qui était la thèse germanique, qui était la thèse qui circulait à ce moment-là dans l'Empire des Habsbourg et qui était au fond l'équivalent, le pas-à-pas vis-à-vis de la thèse troyenne que je citais tout à l'heure et que j'ai étudié en France. Cette thèse germanique, elle avait été formulée un certain nombre de fois et en particulier par quelqu'un qui s'appelait Beatus Frenanus, et qui était celle-ci. Cette thèse germanique consistait à dire « Nous ne sommes pas romains, nous autres, allemands, nous sommes germains. Mais, à cause de la forme impériale dont nous avons hérité, nous sommes les successeurs naturels et juridiques de Rome. » Bon. Or, vivait toujours cette thèse germanique. Les Francs qui ont envahi la Gaule sont des Germains. Des Germains comme nous. Quand ils ont envahi la Gaule, certes, ils ont quitté leur Germanie natale, mais d'une part, dans la mesure où ils étaient germains, ils sont restés germains. Ils demeurent par conséquent à l'intérieur de notre impérium, et comme d'autre part, ils ont envahi la Gaule, occupé la Gaule, vaincu les Gaulois, ils exercent eux-mêmes tout naturellement sur cette terre de conquête et de colonie l'impérium, le pouvoir impérial dont ils sont en quelque sorte éminemment revêtus en tant que germains. Et par conséquent, la Gaule, la terre gauloise, la France maintenant, relève à la fois par un droit de conquête et de victoire et par l'origine germanique des Francs, relève à ce double titre de la subordination à la monarchie universelle des Habsbourg. Eh bien, c'est cette thèse que, curieusement jusqu'à un certain point, François Haussmann va reprendre, réintroduire en France en 1573, et c'est cette thèse qui va avoir, à partir de ce moment-là, un succès fort considérable, au moins jusqu'au début du XVIIe. Haussmann reprend la thèse allemande et il dit, eh bien, en effet, les Francs qui ont, à un moment donné, envahi la Gaule, et constituer une nouvelle monarchie, ces Francs ne sont pas des Français, ce sont des Germains. Après une longue guerre, ils ont envahi la Gaule, ils ont vaincu les Romains et les ont chassés, et ils ont fondé à ce moment-là une nouvelle monarchie. Reproduction à peu près littérale de la thèse de Rhénanus, de la thèse germanique, je dis à peu près littérale, car il y a tout de même une différence, c'est la différence, c'est-à-dire que Haussmann ne dit pas que les Francs ont vaincu les Gaulois, il dit qu'ils ont vaincu les Romains. Et c'est là, je crois, ce qui fait la différence fondamentale. Le texte de Haussmann est à coup sûr important. Il est important parce qu'il introduit, à peu près à la même époque qu'on le voit apparaître en Angleterre, ce thème fondamental de l'invasion. Cet élément qui est à la fois la croix des juristes et la nuit des rois, qui est cette invasion au cours desquels les États disparaissent et d'autres États naissent, ça va être en effet autour de cela que tous les débats juridico-politiques vont se jouer. Désormais, à partir de cette discontinuité fondamentale, il est évident que l'on ne pourra plus raconter une leçon de droit public qui aurait pour fonction de garantir le caractère ininterrompu du pouvoir, ininterrompu de la généalogie des rois et de leur pouvoir, que désormais le grand problème du droit public va être le problème de ce que un successeur de Haussmann, le papier, va appeler l'entre-suite, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsque un État succède à un autre État, qu'est-ce qui se passe et qu'en est-il du droit public dès lors que les États ne se succèdent pas par une sorte de continuité que rien n'interrompt, mais que les États naissent, ont leur phase de puissance, puis leur décadence, et finalement disparaissent entièrement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quant au droit public et quant au pouvoir des rois? Haussmann a effectivement posé ce problème. Mais il ne pense pas qu'en posant ce problème, il ait posé un problème différent, fort différent de celui, si vous voulez, de la nature cyclique et de la vie précaire des États, qui est le problème des deux nations étrangères intérieures à l'État. D'une façon générale, d'ailleurs, aucun des auteurs contemporains des guerres de religion n'a admis l'idée qu'une dualité, comme une dualité de race, d'origine, de nation, viendrait traverser la monarchie. Et d'ailleurs, c'était impossible cela, parce que, d'une part, les tenants d'une religion unique posaient évidemment le principe une foi, une loi, un roi. Il n'était pas possible de revendiquer l'unité de religion en admettant une dualité interne de nation. Et d'un autre côté, ceux qui réclamaient au contraire la possibilité de choix religieux, la liberté de conscience, ne pouvaient faire admettre leur thèse qu'à la condition de dire, mais la liberté de conscience, mais la possibilité de choix religieux, l'existence même de deux religions dans un corps de nation, ne peut en aucun cas compromettre l'unité de l'État. L'unité de l'État n'est pas entamée par la liberté de conscience. Donc, que l'on prenne la thèse de l'unité religieuse, ou au contraire que l'on soutienne la possibilité d'une liberté de conscience, la thèse de l'unité de l'État a été au contraire renforcée tout au cours des guerres de Russie. Et ce que Hoffmann a voulu dire lorsqu'il a raconté l'histoire dont vous parlez tout à l'heure, ce qu'il a voulu dire, c'est tout autre chose. Ça a été une manière de proposer un modèle juridique de gouvernement opposé à l'absolutisme romain que la monarchie française voulait reconstituer. Cette histoire de l'origine germanique, de l'invasion, etc., cette histoire, c'est une manière de dire non, ce n'est pas vrai. Le roi de France n'a pas le droit d'exercer sur ce sujet un impérium de type romain. Le problème de Hoffmann, ce n'est donc pas la disjonction de deux éléments hétérogènes dans le peuple, c'est la délimitation interne du pouvoir monarchique. De là, la manière dont il raconte la fable, quand il dit « Les Gaulois et les Germains étaient en fait à l'origine des peuples frères. Ils s'étaient établis dans deux régions voisines, de ce côté-ci et de ce côté-là du Rhin. Il n'y aura donc aucun caractère d'invasion étrangère lorsque les Germains viendront en Gaule. Ils viendront en réalité presque chez eux, en tout cas chez leurs frères. Et qu'est-ce qui est étranger aux Gaulois ? Bien, ce qui est étranger aux Gaulois, ce sont les Romains. Les Romains qui ont imposé par l'invasion et par la guerre racontée par César, qui ont imposé un régime politique qui est celui de l'absolutisme. Ils ont établi, eux les étrangers, quelque chose d'étranger même à la Gaule, c'est l'impérium romain. Les Gaulois ont résisté, ils ont résisté pendant des siècles, ils ont résisté d'une façon qui n'a guère eu de succès, et ce sont finalement leurs frères germaniques qui, vers le 4e et 5e siècle, ont commencé à entreprendre en faveur des frères gaulois une guerre qui a été une guerre de libération. Et les Germains sont venus, non pas comme des envahisseurs, mais comme un peuple frère, aidant son peuple frère à se libérer des envahisseurs et des envahisseurs romains. Les voilà donc chassés des Romains, les Gaulois les voilà affranchis, et avec les frères germaniques, ils ne forment plus qu'une seule et même nation, une seule et même nation dont la constitution, dont les lois fondamentales, comme dit le droit public de l'époque, dont les lois fondamentales sont les lois fondamentales de la société germanique, c'est-à-dire souveraineté du peuple qui se réunit régulièrement au Champ de Mars ou dans les assemblées de mai, souveraineté du peuple qui élit son roi comme il veut, qui le dépose quand c'est nécessaire, souveraineté d'un peuple qui n'est régi que par des magistrats dont les fonctions sont temporaires et toujours à la disposition du Conseil. Et c'est cette constitution germanique que les rois ensuite ont violée pour arriver à bâtir cet absolutisme que la monarchie française, dont la monarchie française du 16e siècle porte témoignage. Bon, bien dans cette histoire que raconte Hoffmann, vous voyez qu'il ne s'agit aucunement d'établir une dualité, au contraire, il s'agit de nouer très fortement une unité en quelque sorte germano-française, franco-gallois, franco-gallien, comme il dit. Il s'agit donc d'établir une unité profonde, et il s'agit en même temps de raconter sous forme d'histoire, eh bien en quelque sorte, le dédoublement du présent. Il est clair que ces Romains envahisseurs dont parle Hoffmann, c'est l'équivalent transposé dans le passé de la Rome du pape et de son clergé. Les Germains fraternels et libérateurs, c'est évidemment la religion réformée venant d'outre-Rhin. L'unité du royaume avec la souveraineté du peuple, eh bien, c'est le projet politique d'une monarchie constitutionnelle que l'on trouve dans beaucoup de cas protestants de l'époque. Bon, ce discours de Haussmann est important. Il est important parce qu'il mouche, et d'une façon qui va être sans doute définitive, le projet de limiter l'absolutisme royal à la redécouverte dans le passé d'un certain modèle historique précis, d'un modèle historique précis qui, à un moment donné, aurait fixé les droits réciproques du roi et de son peuple, et qui aurait été, par la suite, oublié ou violé. Le lien qui va exister depuis le XVIe siècle entre la délimitation du droit de la monarchie, la reconstitution d'un modèle passé, et en quelque sorte, la révolution en tant que remise au jour d'une constitution fondamentale et oubliée, c'est cela qui se noue, je crois, dans le discours d'Haussmann, et pas du tout un laïque. Cette thèse de l'espèce germanique, bon, au départ, était d'origine protestante. En fait, elle a très vite circulé, non seulement dans les milieux protestants, mais dans les milieux catholiques, à partir du moment où, sous le règne d'Henri III, et surtout au moment de la conquête par Henri IV du pouvoir, les catholiques, au contraire, ont eu intérêt à chercher une limitation du pouvoir royal, et brusquement se sont retournés contre l'absolutisme royal. De sorte que cette thèse protestante de l'origine germanique, vous la trouvez chez les historiens et catholiques comme Dutilleux, Jean de Serres, etc. C'est cette thèse qui, à partir, disons, du premier tiers, enfin du premier tiers du XVIIe siècle, va être l'objet d'une entreprise, sinon exactement de disqualification, mais une entreprise en quelque sorte pour la contourner, pour contourner cette espèce d'origine germanique, cet élément germanique, avec ce qu'il comportait de doublement inacceptable pour le pouvoir monarchique, inacceptable quant à l'exercice du pouvoir et au principe du droit public, inacceptable également par rapport à la politique européenne de Richelieu et de Louis XIV. Bon, alors pour court-circuiter, pour contourner cette fondation germanique de la France, alors plusieurs moyens ont été employés, deux surtout, l'un une sorte de retour au mythe troyen qui en effet se réactive au milieu du XVIIe siècle, mais surtout la fondation, la mise en place d'un thème absolument nouveau, qui va être fondamental, qui est le thème de ce que j'appellerais le gallo-centrisme radical, qui consiste à dire ceci. C'est que les Gaulois, donc, en effet, Haussmann avait fait apparaître comme partenaire important dans cette préhistoire de la monarchie française, les Gaulois, chez Haussmann, ils s'étaient en quelque sorte une matière lunaire, c'était un substrat, c'était des gens qui avaient été vaincus, occupés, et qu'il avait fallu libérer de l'extérieur. Eh bien, ces Gaulois vont devenir, à partir du XVIIe siècle, principe premier, moteur en quelque sorte de l'histoire, et par une sorte de renversement des polarités et des valeurs, ce sont les Gaulois qui vont être l'élément premier, fondamental, et les Germains, au contraire, ne vont être présentés que comme une sorte de prolongement des Gaulois. La Germanie, les Germains, c'est un épisode seulement dans l'histoire des Gaulois. C'est cette thèse que vous trouvez chez des gens comme Audigier, comme Tarot, etc. Et Audigier raconte par exemple que les Gaulois ont été les pères de tous les peuples d'Europe. Il raconte qu'un certain roi de Gaulle, qui s'appelait Andigas, s'était trouvé devant une nation si riche, si pleine, si pléthorique, avec une population si débordante, qu'il avait fallu qu'il en liquide une partie, et il avait envoyé un de ses neveux en Italie, et l'autre, un certain Sigovel, aurait été envoyé en Germanie. Et c'est à partir de là, de cette espèce d'expansion et colonisation, que les Gaulois, que la nation française, aurait été en quelque sorte la matrice de tous les autres peuples d'Europe, et même au-delà de l'Europe. C'est ainsi que c'est oublié que la nation française n'a qu'une même origine avec tout ce que le monde a eu de plus terrible, de plus brave et de plus glorieux, c'est-à-dire avec les Vandales, les Gaules, les Bourguignons, les Anglais, les Hérules, les Huns, les Sinaloa. Carthaginiens, les Épides, les Amiens, les Russiens, les Lombards, les Thuringiens, les Turcs, les Tartares, les Perses et même les Anglais. Les Francs du 4e et 5e siècle, qui donc vont envahir la Gaule, n'étaient que des rejetons de cette sorte de Gaule primitive. Ces Francs étaient des Gaulois simplement avides de revoir leur pays. Et quand ils ont envahi la Gaule au 4e ou 5e siècle, il ne s'agissait absolument pas pour eux de libérer une Gaule asservie, de libérer des frères vaincus, il s'agissait simplement d'une nostalgie profonde et du désir aussi de bénéficier d'une civilisation gallo-romaine qui était florissante. Les cousins, les fils prodigues revenaient, ils revenaient et les voilà que tout naturellement, en revenant, ils ont non pas du tout bousculé le droit romain implanté en Gaule, ils l'ont au contraire réabsorbé. Ils ont réabsorbé cette Gaule romaine ou se sont laissés absorber dans cette Gaule romaine. La conversion de Clovis est la manifestation que ces anciens Gaulois devenus germains et francs réadoptaient les valeurs, le système politique et religieux de l'Empire romain. Et en moment de ce retour, s'ils ont eu à se battre, les Francs, ça n'a pas été du tout contre les Gaulois, ni même contre les Romains dont ils absorbaient les valeurs, c'était contre des Burgondes et des Gaules qui étaient hérétiques ou des Tartariens, c'était contre les Sarrasins incroyants, c'est contre eux qu'ils ont fait la guerre, et c'est pour récompenser les guerriers qui avaient ainsi lutté contre Gaules, Burgondes et Sarrasins que les rois leur ont donné le siècle. L'origine de ce qui ne s'appelle pas encore à cette époque-là la féodalité est ainsi fixée dans le siècle. Bon, cette fable, vous le voyez, permettait un certain nombre de choses. Ça permet d'affirmer, bien sûr, le caractère autochtone de la population gauloise. Ça permettait d'affirmer l'existence de frontières naturelles de la Gaule, qui étaient celles décrites par César, et qui étaient également l'objectif politique de Richelieu et de Louis XIV dans leur politique extérieure. Il s'agissait également, dans ce récit, non pas seulement d'effacer toute différence raciale, mais surtout d'effacer toute hétérogénéité entre un droit germanique et un droit romain. Il fallait montrer que les Germains avaient renoncé à leur propre droit pour reprendre le système juridico-politique des Romains. Et enfin, il fallait faire dériver les fiefs et les prérogatives de la noblesse, non pas du tout de droits fondamentaux et archaïques de cette noblesse, mais simplement d'une volonté du roi, dont le pouvoir et l'absolutisme seraient antérieurs à l'organisation même de la féodalité. Enfin, le dernier point, il s'agissait bien sûr de faire passer du côté français la prétention à la monarchie universelle. Dès lors que la Gaule était ce que Tacite appelait, à propos d'ailleurs de la Germanie, la vagina nationum, dès lors que la Gaule était bien en effet la matrice de toutes les nations, à qui devait revenir la monarchie universelle, sinon à celui, au monarque, qui héritait de cette terre de Gaule. Bon, bien sûr, autour de ce schéma, il y a eu bien des variations sur lesquelles je parle. Si je l'ai fait récit un peu long, c'est parce que je voulais rapporter un petit peu cela à ce qui se passait en Angleterre à la même époque et dont je voulais parler d'ailleurs. Entre ce qui se disait en Angleterre sur l'origine et la fondation de la monarchie anglaise et ce qui se dit au milieu du XVIIe siècle sur la fondation de la monarchie française, il y a au moins un point commun et il y a une différence fondamentale. Le point commun, et je crois qu'il est important, c'est le fait que l'invasion, avec ses formes, ses motifs, ses conséquences, est devenue un problème historique. Il est devenu un problème historique dans la mesure où se trouve engagé un enjeu juridico-politique important. C'est à l'invasion de dire ce que sont la nature, les droits, les limites du pouvoir monarchique. C'est au fait de l'invasion, à l'histoire de l'invasion, de dire ce que sont les conseils du roi, les assemblées, les cours suprêmes. C'est au fait de l'invasion de dire ce qu'est la noblesse et que sont les droits de la noblesse en face du roi, des conseils du peuple. Bref, c'est à l'invasion que l'on demande de formuler les principes même du droit humain. À l'époque où Grotius, Poussendorf, Hobbes, etc., cherchaient du côté du droit naturel les règles de constitution d'un État juste, eh bien, à cette même époque, commençait en contrepoint et en opposition une énorme enquête historique sur l'origine et la validité des droits effectivement exercés. Et ceci du côté d'un fait historique, ou si vous voulez, du côté d'une certaine tranche d'histoire, qui va être la région la plus sensible dans juridiquement et politiquement sensible de toute l'histoire de France, cette période qui va, en gros, si vous voulez, de Mérovée à Charlemagne, du 5e au 9e siècle, région dont on n'a pas cessé de dire qu'elle était la plus méconnue, ceci est répété sans arrêt depuis le 17e siècle, méconnue peut-être, mais certainement la plus parcourue. En tout cas, entre maintenant, et pour la première fois, je crois, dans l'horizon d'une histoire de France qui, jusqu'alors, destinée à établir la continuité du pouvoir et de l'impérium royal, ne racontait que des histoires de Troyens et de Francs. Maintenant, voilà qu'apparaissent de nouveaux personnages, de nouveaux textes, de nouveaux problèmes. Les textes, eh bien, c'est Grégoire de Tours, c'est les Capulaires de Charlemagne. Les personnages nouveaux, c'est Mérovée, c'est Clovis, c'est Charles Martel, c'est Pépin. Apparaissent aussi le problème des coutumes comme le chant de mars, les assemblées de mai, le rituel des rois élevés sur les pavois, etc. Apparaissent des événements comme le baptême de Clovis, la bataille de Poitiers, le couronnement de Charlemagne, des anecdotes symboliques comme ce vase de Soissons où on voit le roi Clovis renoncer à un droit ou une prétention devant le droit de ses guerriers et son vengeance. Ensuite, bon, tout ceci nous donne un paysage historique nouveau, un référentiel nouveau, et il ne se comprend que dans la mesure où il existe entre ce matériel nouveau et les discussions politiques sur le droit public une corrélation très forte. En fait, l'histoire et le droit public vont se faire, les problèmes posés par le droit public et la délimitation du champ historique ont une corrélation fondamentale. D'ailleurs, dans les textes d'institutions jusqu'à la fin du XVIIe siècle, l'expression « histoire et droit public » sera comme une expression consacrée. Et si vous regardez d'ailleurs comment, de fait, et bien après la fin du XVIIIe siècle, comment au XXe encore, on enseigne l'histoire, ce qu'est la pédagogie de l'histoire, eh bien, vous verrez que c'est le droit public qu'on vous raconte. Si vous me posez la question de savoir ce que signifie cette phrase, je sais plus ce que sont les manuels scolaires à l'heure actuelle, mais il n'y a pas encore si longtemps que l'histoire de France commençait bien sûr par l'histoire des Gaulois. La phrase « nos ancêtres les Gaulois qui périrent parce qu'on la prenait aux Algériens » ou aux Africains, cette phrase, elle a un sens très précis, dire « nos ancêtres les Gaulois », c'est au fond formuler une proposition qui a un sens dans la théorie du droit constitutionnel et dans les problèmes posés par le droit public. Lorsque on raconte avec détail la bataille de Poitiers, ça a également un sens très précis. Ça a un sens très précis dans la mesure où c'est effectivement autour de cela, de cette guerre qui est censée qui est une guerre non pas entre les Francs et les Gaulois, mais précisément entre les Francs et les Gaulois d'une part et des envahisseurs d'une autre race et d'une autre religion, ce qui permet de fixer l'origine de la féodalité à autre chose qu'un conflit interne entre Francs et Gaulois. Lorsqu'on raconte l'histoire du vase de Soissons, cette histoire qui a, je crois, peuplé tous les manuels d'histoire et qu'on enseigne peut-être encore maintenant, cette histoire, elle a été certainement une des plus étudiées, sérieusement étudiée pendant tout le XVIIIe siècle, j'y reviendrai. L'histoire du vase de Soissons, c'est une histoire d'un problème de droit constitutionnel quels étaient effectivement à l'origine les droits du roi quant au partage des richesses en face des droits de ses guerriers, éventuellement de la noblesse, dans la mesure où ses guerriers sont à l'origine de la noblesse. On a cru qu'on apprenait l'histoire, mais encore au XIXe siècle, encore au XXe siècle, les manuels d'histoire, c'était en fait des manuels de droit public. On apprenait le droit public et le droit constitutionnel sous les aspects imagés de l'histoire. Bon, donc, premier point, je crois, l'apparition donc de ce nouveau champ historique, qui est d'ailleurs tout à fait semblable quand on a son matériau auprès de gens de sa période avec ce qui se passe en Angleterre au moment où, autour du problème de la monarchie, se réactive le thème de l'invasion. Bon, cependant, il y a une différence fondamentale par rapport à l'Angleterre, c'est qu'en Angleterre, la conquête et la dualité raciale normand-anglais, normand-saxon, eh bien, cette différence était le point d'articulation essentiel de cette histoire. Je vous l'ai raconté la dernière fois. En revanche, en France, jusque-là, jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'au milieu, jusqu'à la fin même du XVIIe siècle, aucune hétérogénéité dans le corps de la nation, tout le système des parentés fabuleuses entre Gaulois et Troyens, puis entre Gaulois et Germains, puis entre Gaulois et Romains, etc., tout ce système de parenté fabuleuse permet d'assurer une continuité dans la transmission du pouvoir et une homogénéité sans problème dans le corps de la nation. Or, c'est cela, c'est cette homogénéité qui va être cassée à la fin du XVIIe siècle et qui va être cassée non pas par un édifice théorique ou théorico-mythologique supplémentaire et différent de ceux dont je viens de vous parler, mais par un discours qui est, je crois, de type absolument nouveau, de type absolument nouveau, par ses fonctions, par ses objets, par ses contenus. Ce ne sont pas les guerres civiles ou sociales, ce ne sont pas les luttes religieuses de la Renaissance, ce ne sont pas les conflits de la Fronde qui ont introduit le thème du dualisme national comme leur reflet ou leur expression. C'est un conflit, un problème en apparence latéral, quelque chose qu'on qualifie en général de combat d'arrière-garde, et qui ne l'est pas, je crois, vous verrez, et qui a permis de penser deux choses capitales non encore inscrites ni dans l'histoire ni dans le droit public, c'est-à-dire d'une part le problème de savoir si effectivement la guerre des groupes hostiles constitue la substructure de l'État, et le problème de savoir si le pouvoir politique peut être considéré à la fois comme le produit, l'arbitre jusqu'à un certain point, mais plus souvent l'outil, le profiteur, un élément déséquilibrant et partisan dans cette guerre. Quel est ce problème? Problème précis, limité, mais essentiel tout de même, je crois, ce problème à partir duquel la thèse implicite, qui n'avait même pas besoin d'être formulée quand elle est acceptée, de l'homogénéité du corps social, comment est-ce qu'elle va être cassée, cette thèse? Eh bien, je crois, à partir d'un problème qui est un problème de, j'appellerais, si vous voulez, la pédagogie politique. Le problème, c'est de savoir que doit savoir le prince, d'où et de qui doit-il tenir son savoir, qui est habilité à constituer le savoir du prince. D'une façon précise, il s'agissait tout simplement de la fameuse éducation du duc de Bourgogne. Éducation du duc de Bourgogne, dont vous savez combien elle a posé le problème pour tout un tas de raisons, mais je ne parle pas là tellement de son apprentissage élémentaire, à l'époque où se passent les événements dont je vais vous parler, il était déjà adulte. Il s'agit de l'ensemble des connaissances sur l'État, le gouvernement, le pays, l'ensemble des connaissances qui est nécessaire à celui qui va être appelé dans quelques années, lorsque Louis XIV sera mort, à diriger cet État, ce gouvernement et ce pays. Ce n'est donc pas du Télémaque qu'il s'agit, mais de cet énorme rapport sur l'État de la France que Louis XIV a commandé à son administration et à ses intendants, à destination de son petit-fils, le duc de Bourgogne, qui allait être son héritier. Bilan de la France, étude générale de la situation, de l'économie, des institutions, des coutumes de la France, en tant que qui doit constituer le savoir du roi avec lequel il va pouvoir gouverner. Louis XIV demandant ce rapport à ses intendants, après plusieurs mois, même davantage, les rapports sont assemblés, réunis, et l'entourage du duc de Bourgogne, l'entourage qui était constitué de tout un noyau de l'opposition nobiliaire, une noblesse qui reprochait au régime de Louis XIV d'avoir entamé sa puissance économique et son pouvoir politique, eh bien, c'est cette opposition nobiliaire qui entoure le duc de Bourgogne, reçoit ce rapport et charge quelqu'un qui s'appelle Boulainvilliers, charge Boulainvilliers de présenter ce rapport au duc de Bourgogne, à la fois de l'alléger car il était énorme, et puis d'en donner l'explication, l'interprétation, de le recoder, si vous voulez. Et Boulainvilliers, en effet, fait le tri, fait l'épuration de ces énormes rapports, les résume en deux, j'allais dire petits, en fait, gros volumes, et il fait la présentation de ces rapports, la présentation donc de ces rapports sur l'état de la France, qui l'accompagne d'un certain nombre de réflexions critiques, et d'un discours qui est pour lui l'accompagnement nécessaire de cet énorme travail administratif, de description et d'analyse de l'État, et ce discours est assez curieux, puisqu'il s'agit, pour éclairer donc l'état actuel de la France, il s'agit dans ce texte d'un essai sur l'ancien gouvernement de la France jusqu'à Hugues IV. Eh bien, de quoi s'agissait-il dans ce... Bon, bien sûr, dans ces textes de Boulainvilliers, ceux qui ont suivi aussi ne vont pas reprendre ce problème. Il s'agit bien sûr de faire valoir des thèses qui sont favorables à la noblesse. Bon, on critique la vénalité des charges qui sont défavorables à la noblesse appauvrie, on proteste contre le fait que la noblesse a été dépossédée de son droit de juridiction et des profits qui lui étaient liés. Il s'agit de réclamer une place de droit dans les conseils du roi pour la noblesse, il s'agit de critiquer le rôle joué par les intendants et leur administration dans les provinces, bien sûr. Mais surtout, je crois qu'il s'agit dans tout ça, dans ce texte de Boulainvilliers, et dans cette entreprise de recodage du rapport qui est, il s'agit surtout de protester contre le fait que le savoir donné au roi, le savoir donné au prince, ce soit un savoir fabriqué par la machine administrative. Il s'agit de protester contre le fait que le savoir du roi sur ces sujets soit entièrement colonisé, occupé, prescrit, défini par le savoir de l'État sur l'État. Le problème, c'est, est-ce que le savoir du roi sur son royaume sur ces sujets doit être isolement au rapport, au savoir de l'État sur l'État? Est-ce que les connaissances bureaucratiques, fiscales, économiques, juridiques, qui sont nécessaires au fonctionnement de la monarchie administrative, est-ce que toutes ces connaissances doivent être réinjectées dans le prince par l'ensemble des informations qu'on lui donne et qui lui permettent de gouverner? En somme, le problème est celui-ci. L'administration, le grand appareil administratif que les rois ont donné à la monarchie. Eh bien, ce grand appareil administratif, il est en quelque sorte soudé au prince lui-même, il fait corps avec le prince, ceci par la volonté arbitraire et illimitée que celui-ci exerce sur une administration qui est en effet entièrement dans sa main et à sa disposition, et à la, par conséquent, qui ne peut pas lui résister. Le prince, dont l'administration fait corps avec le prince par le pouvoir du prince, mais voilà que le prince, degré ou force, va être amené à faire corps avec son administration, à être soudé à elle par le savoir que cette administration lui retransmet cette fois de bas en haut. L'administration permet au roi de faire régner sur le pays une volonté sans limite, mais inversement, l'administration règne sur le roi par la qualité et la nature du savoir qu'elle lui impose. Et je crois que la cible de Boulainville, de ceux qui l'entouraient à cette époque, la cible également de ses successeurs, comme le comte Duanantais au milieu du XVIIIe siècle, la cible également de Montlosier, dont le problème sera bien plus compliqué, puisque lui, il écrira au début de la Restauration contre l'administration impériale. De toute façon, la cible de tous ces historiens liés à la réaction nucléaire, leur cible, ce sera le mécanisme de savoir-pouvoir qui, depuis le XVIIe siècle, lie l'appareil administratif à l'absolutisme de l'État. Et je crois que les choses se sont un peu passées comme si la monarchie, la noblesse appauvrie, repoussée en partie de l'exercice du pouvoir, avait pris pour objectif premier, non pas tellement la reconquête directe et immédiate de ce pouvoir, non pas non plus la récupération des richesses qui lui étaient sans doute devenues définitivement inaccessibles. La noblesse a pris pour objectif premier de son offensive ou de sa contre-offensive, si vous voulez, eh bien, un chaînon important dans le système du pouvoir, un chaînon important qu'elle avait négligé et qu'elle avait sans doute négligé de tout temps, même à l'époque où elle, la noblesse, était pourtant au fait de sa puissance, cette pièce stratégique, elle avait été donc négligée par la noblesse et occupée à sa place par l'Église, par les clercs, par les magistrats, puis par la bourgeoisie, les administrateurs, les financiers même. Cette position a réoccupé en tout premier lieu l'objectif stratégique que Boulainvilliers va fixer désormais à la noblesse. La condition de toutes les revanches, ce n'est pas, comme on disait dans le vocabulaire de la cour, la faveur du prince. Ce qu'il faut regagner, ce qu'il faut occuper maintenant, c'est le savoir du roi. Le savoir du roi, ou un certain savoir, commun au roi et aux nobles, loi implicite, engagement réciproque du roi avec son aristocratie. Il s'agit de réveiller la mémoire qui a été étourdiment distraite des nobles et des souvenirs, soigneusement et peut-être méchamment en ce vie du monarque, pour reconstituer le juste savoir du roi qui sera le juste fondement d'un gouvernement. Tout un travail contre savoir du roi qui va prendre la forme de recherche historique absolument nouvelle. Je dis contre savoir parce que ce savoir nouveau et ces méthodes nouvelles pour investir le savoir du roi se définissent d'abord, je crois, pour Boulainvilliers et ses successeurs, se définissent d'abord d'une manière négative par rapport à deux savoirs ennemis. Deux savoirs qui sont les deux faces, si vous voulez, peut-être les deux phases aussi, du savoir administratif. Premièrement, le grand ennemi de ce savoir nouveau que la noblesse, par laquelle la noblesse veut reprendre pied dans le savoir du roi, eh bien, le premier savoir qu'il faut écarter, c'est le savoir juridique, je dirais le savoir du tribunal, du procureur, le savoir du jurisconsulte et du greffier, savoir haïssable, bien sûr, pour les nobles, puisque c'est ce savoir qui les a piégés, qui les a dépossédés par des arguties qu'ils ne comprenaient pas, qui les a dépouillés sans même qu'ils puissent bien s'en rendre compte, qui les a dépouillés de leurs droits de juridiction et puis même de leurs biens. Mais c'est un savoir qui est haïssable aussi, parce que c'est un savoir en quelque sorte circulé, qui renvoie du pouvoir au pouvoir. Quand le roi, pour connaître ses droits, interroge le greffier ou le jurisconsulte, quelle réponse peut-il obtenir, sinon un savoir établi du point de vue du juge et du procureur que lui, le roi, a créé lui-même, et où par conséquent, il n'est pas surprenant que le roi trouve tout naturellement la louange de son propre pouvoir, louange qui d'ailleurs masqueront peut-être des détournements de pouvoir subtils opérés par le procureur, le greffier, etc. En tout cas, savoir circulaire, savoir où le roi ne peut rencontrer que l'image même de son propre absolutisme, image qui lui renvoie sous la forme du droit l'ensemble des usurpations que lui, le roi, a commises à l'égard de sa noblesse. Eh bien, c'est contre ce savoir de greffier que la noblesse veut faire valoir une autre forme de savoir, et ce sera l'histoire. Une histoire qui aura pour caractère de passer à l'extérieur du droit, derrière le droit, dans les interstices de ce droit. Une histoire qui ne soit pas simplement, comme elle était jusque-là, le déroulement imagé, dramatisé du droit public, mais qui va au contraire essayer de reprendre le droit public à sa racine, qui va essayer de replacer les institutions du droit public dans un réseau plus ancien, d'autres engagements plus profonds, plus solennels, plus essentiels. Il s'agit donc contre le savoir du greffier, où le roi ne peut rencontrer que la louange de son absolutisme, c'est-à-dire encore et toujours la louange de Rome. Eh bien, il s'agit de faire valoir contre ce savoir du greffier un fonds d'équité historique derrière l'histoire du droit. Il s'agit de réveiller des engagements non écrits, des fidélités qui n'ont pas eu de lettres ni de textes sans doute. Il s'agit de réactiver des dettes oubliées. Il s'agit de réactiver le sang versé par la noblesse pour le roi. Il s'agit aussi de faire apparaître l'édifice même du droit comme le résultat, dans ses institutions même les plus validées, même dans ses ordonnances les plus explicites et les mieux reconnues, il s'agit de faire valoir derrière cela, à la racine de tout cela, toute une série d'iniquités, d'injustices, d'abus, de dépossessions, de trahisons, d'infidélités commises par le pouvoir royal qui a renié ses engagements à l'égard de la noblesse, et également par les robins qui ont usurpé à la fois sur le pouvoir de la noblesse, et peut-être, sans qu'ils s'en rendent bien compte aussi, sur le pouvoir royal. L'histoire du droit, ce sera donc la dénonciation des trahisons, et de toutes les trahisons qui se sont branchées sur les trahisons. Il s'agit, dans cette histoire qui va s'opposer dans sa forme même au savoir du greffier et du juge, il s'agit d'ouvrir les yeux du prince sur les usurpations dont il n'a pas eu conscience, et il s'agit de lui restituer de force le souvenir des liens qu'il a eu sans doute intérêt à oublier lui-même et à faire oublier. Contre le savoir du greffier qui renvoie toujours d'une actualité à l'autre, du pouvoir au pouvoir, du texte de la loi à la volonté du roi et inversement, contre ce savoir du greffier, eh bien l'histoire sera l'arme de la noblesse trahie et oubliée. Une histoire dont la forme profondément anti-juridique sera derrière l'écriture le décryptage, la remémoration au-delà de toutes les décisions et la dénonciation de ce que cache le dossier apparent. Voilà le premier grand adversaire de ce savoir historique que la noblesse veut lancer pour réoccuper le savoir du roi. L'autre grand adversaire, ce n'est plus le savoir du juge, ce n'est plus le savoir du greffier, c'est le savoir de l'intendant. Non plus le greffe, mais le bureau. Savoir lui aussi haïssable, c'est pour des raisons symétriques, puisque c'est ce savoir des intendants qui a permis de rogner sur les richesses et les pouvoirs des nobles. C'est un savoir qui lui aussi ne peut qu'éblouir le roi et lui faire illusion, puisque c'est grâce à ce savoir des intendants que le roi peut faire passer sa puissance, obtenir obéissance, assurer la fiscalité, etc. C'est un savoir administratif, surtout économique, quantitatif, savoir des richesses actuelles ou virtuelles, savoir des impôts supportables, des taxes utiles, c'est tout ce savoir des intendants, savoir du bureau, contre lequel la noblesse veut faire valoir une autre forme de connaissance, une histoire cette fois, une histoire des richesses, et non plus une histoire économique, une histoire des richesses, c'est-à-dire une histoire des déplacements des richesses, une histoire des exactions, des vols, des tours de passe-passe, des détournements, des appauvrissements, des ruines, etc. Une histoire par conséquent qui passe derrière ce problème de la production des richesses pour montrer par quelle ruine cette accumulation abusive s'est constituée de fait un certain état des richesses qui n'est après tout qu'un mélange des malhonnêtetés du roi avec la bourgeoisie. Ça fera donc, contre l'analyse des richesses, une histoire de la manière dont les nobles se sont ruinés dans des guerres pour le roi, l'histoire de la manière dont l'Église s'est fait donner par ruse des terres et des revenus, l'histoire de la manière dont la bourgeoisie a endetté la noblesse, l'histoire de la manière dont le fisc royal a rogné les revenus des nobles, etc. Ces deux hostilités, ces deux grands discours auxquels l'histoire de la noblesse veut s'opposer, discours du greffier, discours de l'intendant, discours du tribunal et discours du bureau, eh bien ces deux hostilités n'ont sans doute pas eu la même chronologie. La lutte contre le savoir juridique est sans doute plus fort, plus actif, plus intense à l'époque de Boulainvilliers, c'est-à-dire fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. La lutte contre le savoir économique, il est beaucoup plus violent, bien entendu, au milieu du XVIIIe siècle, à l'époque des physiocrates. Le grand adversaire de la Nancée, ça sera la physiocratie. Mais, de toute façon, qu'il s'agisse du savoir des intendants, savoir du bureau, savoir économique, ou savoir du greffe ou du tribunal, de toute façon, ce qui est en question, c'est le savoir qui se constitue de l'État à l'État, et auquel il faut substituer une autre forme de savoir, une forme de savoir dont le profil général c'est l'histoire. Mais l'histoire de quoi? Jusqu'à présent, l'histoire n'avait jamais été, justement, que l'histoire que le pouvoir se racontait sur lui-même, l'histoire que le savoir, que le pouvoir faisait raconter sur soi, c'était l'histoire du pouvoir par le pouvoir. Maintenant, l'histoire que la noblesse commence à raconter, contre justement les discours de l'État sur l'État, du pouvoir sur le pouvoir, eh bien c'est un discours qui va faire, je crois, éclater le fonctionnement même du savoir historique. C'est là que se défait, je crois, et la chose est importante, l'appartenance entre d'une part le récit de l'histoire et de l'autre l'exercice du pouvoir, son renforcement rituel, la formulation imagée du droit public, apparaît avec Boulainvilliers dans ce discours de la noblesse réactionnaire de la fin du XVIIe siècle, apparaît un nouveau sujet de l'histoire, sujet de l'histoire, je veux dire deux choses, d'une part, un nouveau sujet parlant, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la parole dans l'histoire et qui va raconter l'histoire. Quelqu'un d'autre va dire « je » et « nous » quand il racontera l'histoire. Quelqu'un d'autre va faire le récit de sa propre histoire. Quelqu'un d'autre va réorienter le passé, les événements, les droits et les injustices, les défaites et les victoires autour de lui-même et de son propre destin. Déplacement par conséquent du sujet parlant dans l'histoire, mais déplacement du sujet de l'histoire aussi en ce sens qu'il y a une modification dans l'objet même du récit de l'histoire, dans son sujet entendu comme thème ou objet, si vous voulez, c'est-à-dire modification de l'élément premier, antérieur, plus profond, qui va permettre de définir par rapport à lui les droits, les institutions, la monarchie et la terre elle-même. Bref, ce dont on parlera, ce sera des péripéties de quelque chose qui part sous l'État, de quelque chose qui traverse le droit, de quelque chose qui est à la fois plus ancien, plus profond que, et plus profond que les institutions. Ce nouveau sujet d'histoire, qui est à la fois ce qui parle, celui qui parle dans le récit historique, et ce dont parle ce récit historique, ce nouveau sujet d'histoire, qui apparaît quand on écarte le discours administratif ou juridique de l'État sur l'État, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'un historien de cette époque-là appelle une société mais entendue comme association, groupe, ensemble d'individus réunis par un statut. Donc une société composée d'un certain nombre d'individus qui a ses mœurs, ses usages et même sa loi particulière. Ce quelque chose qui parle désormais dans l'histoire, qui prend la parole dans l'histoire et dont on va parler dans l'histoire, ce quelque chose, c'est ce que le vocabulaire de l'époque désigne par le mot de nation. La nation n'est pas à cette époque du tout quelque chose qui se définirait par une unité de territoire, ou par une morphologie politique définie, ou par un système de sujétion à un impérium quelconque. La nation est sans frontières, la nation est sans système de pouvoir défini, la nation est sans État, la nation circule derrière les frontières et les institutions, la nation est plutôt les nations, c'est-à-dire les ensembles, les sociétés, les groupements de gens, d'individus qui ont ensemble quoi ? Un statut, des mœurs, des usages, une certaine loi particulière, mais loi entendue beaucoup plutôt comme régularité statutaire que comme loi étatique. C'est de cela, de ces éléments-là qu'il va être question dans l'histoire, et ce sont ces éléments-là, c'est la nation qui va prendre la parole, la noblesse. La noblesse, c'est une nation en face de bien d'autres nations qui circulent dans l'État et qui s'opposent les unes aux autres. C'est de cette notion, ce concept de nation que vont sortir à la fois le fameux problème révolutionnaire de la nation. C'est de là que va sortir, bien sûr, les concepts fondamentaux du nationalisme du XIXe siècle. C'est de là aussi que va sortir la notion de race. C'est là enfin que va sortir la notion de classe. Avec ce nouveau sujet de l'histoire, ce nouveau sujet parlant dans l'histoire, ce nouveau sujet parlé dans l'histoire, eh bien apparaît aussi, bien sûr, toute une nouvelle morphologie du savoir historique. C'est désormais un savoir qui va avoir un domaine d'objet, un référentiel nouveau, tout un champ de processus jusque-là non seulement obscur, mais totalement négligé, remonte à la surface comme thématique première de l'histoire. Eh bien, tous ces processus sombres qui se passent au niveau des groupes qui s'affrontent sous l'État et à travers les lois, histoire sombre des alliances, des rivalités de groupes, des intérêts masqués ou trahis, histoire des détournements de droits, des déplacements de fortune, histoire des fidélités et des trahisons, histoire des dépenses, des exactions et des dettes, des duperies, des oublis, des inconsciences, etc. C'est d'autre part un savoir qui aura pour méthode non pas la réactivation rituelle des actes fondamentaux du pouvoir, mais au contraire un déchiffrement systématique de des intentions méchantes, la remémoration de tout ce que systématiquement il aura oublié, c'est une méthode de dénonciation perpétuelle de ce qui a été le mal dans l'histoire. Ce n'est plus l'histoire glorieuse du pouvoir, c'est l'histoire de ses bas-fonds, c'est l'histoire de ses méchancetés, c'est l'histoire de ses trahisons. Et du même coup, ce discours nouveau, qui a donc un sujet nouveau, qui a donc un référentiel nouveau, il s'accompagne aussi à ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, un pathos nouveau, entièrement différent du grand rituel cérémonial qui acceptait, qui a accompagné encore obscurément le discours de l'histoire quand on racontait des histoires de Troyens, de Germains, etc. Ce n'est plus le caractère cérémonial du renforcement du pouvoir, c'est un pathos nouveau qui va marquer de sa splendeur une pensée qui va être en grande partie la pensée de droite en France, c'est-à-dire la passion quasi érotique pour le savoir historique, deuxièmement la perversion systématique d'une intelligence interprétative, troisièmement l'acharnement de la dénonciation, quatrièmement enfin l'articulation de l'histoire sur quelque chose qui sera un complot, une attaque contre l'État, quelque chose comme un coup d'État, ou un coup sur l'État, ou un coup contre l'État. Eh bien, ce que j'ai voulu vous montrer, ce n'est pas tout à fait ce qu'on appelle, je crois, l'histoire des idées. Je n'ai pas tellement voulu vous montrer comment la noblesse avait représenté soit ses revendications, soit ses malheurs à travers le discours historique, mais bel et bien, comment, autour des fonctionnements du pouvoir, s'était produit, s'était formé un certain instrument de lutte dans le pouvoir et contre le pouvoir, et cet instrument est un savoir nouveau, un savoir en tout cas partiellement nouveau, qui est cette nouvelle forme d'histoire. Le rappel de l'histoire sous cette forme-là. Eh bien, ce rappel, ça va être au fond, je crois, le coin que la noblesse a essayé d'enfoncer entre le savoir du souverain et les connaissances de l'administration. Et ceci, afin de pouvoir déconnecter la volonté absolue du souverain de l'absolue docilité de son administration. Ce n'est donc pas tellement comme chanson des vieilles libertés que comme déconnecteur du savoir-pouvoir administratif que le discours de l'histoire, que cette vieille histoire des Gaulois et des Germains, que la long récit de Clovis et de Charlemagne ont été des instruments de lutte contre l'absolutisme. C'est pourquoi je crois, d'abord, ce type de discours, qui est donc d'origine nobiliaire et réactionnaire, ce type de discours va circuler avec bien des modifications et des contours de forme, chaque fois justement qu'un groupe politique voudra, pour une raison ou pour une autre, s'en prendre à cette charnière du pouvoir et du savoir dans le fonctionnement de l'État absolu ou de la monarchie administrative. C'est pourquoi, tout naturellement, ce même type de discours, jusque dans ses formulations, vous allez le retrouver aussi bien dans ce qu'on pourrait appeler la droite que la gauche, dans la réaction nobiliaire ou dans les textes des révolutionnaires d'avant ou d'après 1789. Je vous cite simplement un texte qui est celui-ci, c'est à propos du roi justement, du roi injuste, du roi de méchanceté et de trahison. Quel châtiment crois-tu, dit l'auteur qui s'adresse à ce moment-là à Louis XVI, quel châtiment crois-tu que mérite un homme aussi barbare? Malheureux héritier d'un amas de rapines, crois-tu donc que la loi de Dieu n'est pas faite pour toi? Ou es-tu plus qu'un homme pour que tout doive être rapporté à ta gloire et subordonné à ta satisfaction? Qui donc es-tu? Car si tu n'es pas un dieu, alors tu es un monstre. Cette phrase, elle n'est pas de Marat, elle est du comte du Bois Nançay, qu'il écrivait en 1778 à Louis XVI. Et elle sera reprise textuellement par les révolutionnaires 10 ans après. Vous comprenez que si effectivement ce type-là de savoir historique, ce nouveau type de discours, joue en effet ce rôle politique majeur à la charnière du pouvoir et du savoir de la monarchie administrative, vous comprenez bien pourquoi le pouvoir royal n'a pas pu ne pas essayer d'en reprendre à son tour le contrôle. Tout comme ce discours circulait ainsi de la droite à la gauche, de la réaction nobiliaire au projet révolutionnaire bourgeois, Eh bien, de la même façon, le pouvoir royal a cherché à se l'approprier ou à le contrôler. Et c'est ainsi qu'on voit, ce qui prouve la valeur politique, l'enjeu politique capital qu'il y avait dans ce savoir historique, on voit à partir de 1760 le pouvoir royal essayer d'organiser, en quelque sorte de replacer dans son jeu de savoir et de pouvoir, entre le pouvoir administratif et les connaissances qui se formaient à partir de lui, il a voulu replacer ce savoir historique. Et c'est ainsi que, à partir de 1760, on voit s'expliquer une institution qui serait en gros une sorte de ministère de l'histoire. D'abord, vers 1760, création d'une bibliothèque des finances qui, dit le texte, doit fournir à tous les ministres de sa majesté les mémoires, renseignements et éclaircissements nécessaires. En 1763, un dépôt des chartes pour ceux qui voudraient étudier l'histoire et le droit public en France. Et enfin, ces deux institutions, bibliothèque des finances et dépôt des chartes, sont réunies en 1781 en une bibliothèque de législation, écoutez bien les termes, législation, administration, histoire et droit public. Et dans le texte, un texte un peu supérieur, dit qu'elle est destinée, cette bibliothèque, au ministre de Sa Majesté, à ceux qui sont chargés de quelques parties d'administration générale, et à des savants et des juristes consuls qui, chargés par le chancelier ou le garde des Sceaux de travaux et d'ouvrages utiles à la législation, à l'histoire et au public seront payés aux frais de Sa Majesté. Ce ministère de l'Histoire avait un titulaire qui s'appelait Jean-Nicolas Moreau, et c'est lui qui, en liaison avec Brétigny et bien d'autres, a réuni toute l'immense collection de documents médiévaux ou pré-médiévaux sur lesquels, au début du 19e siècle, des historiens comme Augustin Thierry et d'autres pourront travailler. En tout cas, à l'époque où on voit apparaître cette institution, ce véritable ministère de l'Histoire, je crois que son sens est assez clair. Au moment donc où les affrontements politiques du 18e siècle passaient par un discours historique, à l'époque, plus précisément et plus profondément, où le savoir historique était bien une arme politique contre le savoir de type administratif de la monarchie absolue, bien à ce moment-là, la monarchie a voulu recoloniser en quelque sorte ce savoir historique. D'un côté, si vous voulez, la création du ministère de l'Histoire, eh bien, ça apparaît comme une concession, la première acceptation implicite par le roi qu'il existe bien une certaine matière historique qui peut peut-être dégager quelles ont été les lois fondamentales du royaume. C'est 10 ans avant les états généraux, déjà la première acceptation implicite d'une sorte de constitution. Et d'ailleurs, c'est à partir de ces matériaux réunis que les états généraux vont être projetés et organisés en 1789. Donc, première concession du pouvoir royal, première acceptation implicite que quelque chose peut se glisser entre son pouvoir et son administration et qui sera la constitution, les lois fondamentales, la représentation du peuple, etc. Mais aussi, réimplantation de savoir historique sous une forme autoritaire, au lieu même où on avait voulu s'en servir contre la politique, puisque ce savoir était une arme pour réoccuper le savoir du prince entre son pouvoir et les connaissances et l'exercice de l'administration. Et bien c'est là, entre le prince et l'administration, qu'on a placé un ministère de l'Histoire pour rétablir en quelque sorte le lien, pour faire fonctionner l'Histoire dans le jeu du pouvoir monarchique et de son administration, entre le savoir du prince et les connaissances de son administration. On a créé un ministère de l'Histoire qui devait, entre le roi et l'administration, établir d'une façon contrôlée la tradition ininterrompue de la monarchie. Bon, eh bien, voilà ce que je voulais vous dire un peu sur la mise en place de ce nouveau type de savoir historique. Alors, j'essaierai de voir comment, à partir de lui, et dans cet élément, apparaît eh bien, la lutte entre les nations, c'est-à-dire quelque chose qui va devenir lutte des races et lutte des classes.